Radio Prague, les informations.
Le président Klaus nommera ce jeudi deux nouveaux ministres. Explosion dans l'usine du Semtex, 4 disparus. La Inkbank revoit à la hausse sa prévision de la croissance économique. Le président de la République, Václav Klaus, s'est félicité du résultat des négociations menées lundi par la coalition gouvernementale qui avait trouvé un consensus sur le remaniement du cabinet du Premier ministre Petr Nečas. Dans le cadre de ce remaniement, il y aura des changements au poste des ministres de l'Intérieur et des Transports. Le nouveau ministre des Transports, Radek Šmerda, et le nouveau ministre de l'Intérieur, Jan Kubice, seront nommés par le président ce jeudi. Malgré le compromis trouvé par les trois partis de la coalition gouvernementale, un vote sur une motion de censure devrait bien se tenir à la Chambre des députés mardi prochain. La présidence de la Chambre basse du Parlement, Miroslava Němcová, a convoqué une séance exceptionnelle pour la semaine prochaine. La demande de vote a été déposée par le Parti social-démocrate, principale formation de l'opposition. La Inkbank a revu à la hausse sa prévision de la croissance économique tchèque pour cette année. Tandis qu'au début de l'année, la banque prévoyait une croissance de 2,2%, maintenant elle estime que la croissance pourrait atteindre 2,8%. Selon la même source, l'année prochaine, la croissance du PIB tchèque devrait atteindre 4,5%. Ce mercredi matin, un peu avant 7h, de la nitroglycérine a explosé dans l'usine de Semkin, pas loin de la ville de Pardubice, où a été inventé et fabriqué l'explosif mondialement connu, le Semtex. 9 personnes ont été blessées et 4 employés ont été ensevelis sous les décombres, selon la porte-parole de la société Synthesia Jaroslava Doležalová. D'après le chef de la direction des établissements médicaux de la région, Pavel Svoboda, il est improbable que les personnes ensevelies soient encore en vie. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, envisage de soumettre au Parlement encore cette année un nouveau projet d'accord entre la République tchèque et le Vatican. Le processus d'approbation du projet précédent a été suspendu en 2003. Selon le ministre, le document doit être modifié. Il doit être actualisé pour refléter les changements survenus dans les rapports entre l'Église catholique et l'État au cours de ces dernières années. Une nouvelle salle de concert sera construite dans la ville d'Ostrava, en Moravie du Nord. La ville prépare le projet en coopération avec la société britannique Asrup, ayant participé entre autres à la construction de l'opéra de Sydney en Australie. Cette information a été donnée à la presse ce mercredi par le maire d'Ostrava, Petr Kainar, et l'architecte principal de la ville, Cyril Vltavsky. Météo. Comme ces derniers jours, le temps reste très largement ensoleillé sur l'ensemble du territoire. Mercredi, jour de la fête des Marcella, Marcel en français, les températures sont stables et restent supérieures aux normales saisonnières puisqu'elles ont varié ce mercredi entre 19 et 23 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter et je vous laisse en compagnie de Magdalena Rosinková.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue sur Radio Prague. Merci à Václav Richter pour le bulletin d'information. Dans les titres de l'actualité aujourd'hui, un audit international effectué pour améliorer l'efficacité du secteur de la recherche en République tchèque. Vous entendrez ensuite l'écrivain turc installé en France, Nedim Gürsel. Il a été l'invité du Festival des écrivains de Prague. La recherche tchèque doit être plus méthodique quant à l'évaluation et le contrôle des projets scientifiques, ainsi que dans l'attribution de financement à la recherche. C'est en substance le constat de l'audit international réalisé par la société Technopolis Group pour le compte du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Si cette enquête, commencée en mai 2010, devrait encore se prolonger jusqu'à l'été, certains résultats ont d'ores et déjà été dévoilés cette semaine. Pierre Magnan.
Il convient d'analyser plus en détail ce texte qui critique l'organisation de la recherche en Tchéquie et surtout le fonctionnement de la Commission gouvernementale pour le développement, la recherche et l'innovation, laquelle est censée chapeauter ce système. Cela fait bien longtemps qu'une partie de la communauté scientifique appelait à une réforme de la gestion et de l'organisation des financements dans la recherche. Le directeur de l'Académie des sciences, Jiří Drahoš, parle aussi d'un système avançant laborieusement à coup d'améliorations chroniques et de méthodes rapiécées qui ne permettent pas de tendre vers la qualité. Le manque de perspective à long terme, une certaine vision simpliste des liens entre recherche et société, et le centralisme de la recherche tchèque seraient des facteurs de son inefficacité. Le Britannique Eric Arnold a dirigé cet audit. Il pointe du doigt les faiblesses du système tel qu'il existe aujourd'hui.
La force du système actuel, c'est évidemment sa transparence. S'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'argent. Néanmoins, il y a là un point à souligner, ce système n'apporte aucun résultat satisfaisant. Nous recommandons donc fortement d'arrêter l'utilisation de cette méthode d'évaluation. La répartition des financements ne devrait pas être aussi mécanique.
Or, c'est la Commission gouvernementale pour le développement, la recherche et l'innovation en Tchéquie qui coordonne ce système d'évaluation. C'est donc logiquement cet organisme qui est la cible principale des critiques. L'économiste Daniel Munich apporte un éclairage à ce sujet.
Pour commencer, ce qui est aussi très important, c'est le mode de fonctionnement et de gestion au plus haut niveau. C'est la Commission gouvernementale pour le développement, la recherche et l'innovation qui est donc en cause, et le rapport constate une prétendue surcharge de travail liée au micromanagement. Elle effectue une masse de petites tâches, répartit le budget et manque alors de temps pour s'occuper de choses plus stratégiques.
Malgré cela, à la lecture du rapport, certains points positifs se dégagent. Ainsi, le niveau d'investissement dans la recherche est supérieur à certains pays d'Europe du Sud, tels que l'Italie ou l'Espagne. C'est même le deuxième plus dynamique parmi les pays récemment entrés dans l'Union européenne. Si la structure de ces financements est jugée décevante, elle est pourtant similaire à celle de pays comme la France ou le Royaume-Uni. Selon les auteurs du rapport, la part des investissements privés serait trop faible par rapport à ceux du public. Aussi, il est peu étonnant que Josef Dobesch, ministre de l'Éducation, et Jan Kautsky, son vice-ministre chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, semblent paradoxalement plutôt satisfaits des conclusions de cet audit. En effet, le rapport propose finalement une libéralisation du secteur de la recherche, avec un contrôle de l'État moindre sur l'argent investi et une plus large autonomie des laboratoires de recherche. Or, les entreprises ne sont pas philanthropiques et financent des projets susceptibles d'avoir des retombées financières. Le plus important pour Eric Arnold est de lutter contre l'idée que financer la recherche crée automatiquement de l'innovation. Les liens entre recherche et innovation seraient autrement plus complexes. Pour autant, il convient de s'interroger. L'innovation est-elle l'objectif ultime de toute recherche? Ce rapport défend en effet une vision de la science uniquement tournée vers l'efficience économique. Reste à voir dans quelle mesure le gouvernement s'inspirera ou non de ce texte pour réformer la recherche. De nouvelles méthodes d'évaluation pourraient être utilisées dès 2015.
La 21e édition du Festival des écrivains de Prague s'achève ce mercredi. Parmi les invités du festival, l'écrivain turc vivant en France, Nedim Gürsel. Récemment, il s'est retrouvé sous le coup d'un procès en Turquie pour son roman « Les filles d'Allah », considéré comme blasphématoire. Nos collègues de Radio Vltava lui ont demandé où en était ce procès.
Alors, ce procès a duré un an, ce qui est beaucoup à mon avis, et j'ai été acquitté. Mais le parquet a fait appel, donc c'est désormais la cour d'appel qui va trancher, qui dira le dernier mot. Je peux dire que je suis un acquitté en sursis. Je croyais que la Turquie, qui est candidate à l'Union européenne et qui est le seul État laïque de la région, avait résolu ce problème, que la religion n'était plus un tabou. Mais je pense que ce procès n'aurait pas lieu dans la Turquie d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, la Turquie, la société turque est devenue beaucoup plus conservatrice. Et j'ai été, dans ce contexte, accusé de dénigrer les valeurs religieuses de la population. L'article 216 du code pénal. Mais les filles d'Allah, donc mon roman, a été très bien accueilli en Turquie. Notamment dans la presse, il y a eu des articles très élogieux, sauf dans la presse islamiste, qui a considéré que j'ai fait un blasphème et je suis devenu un peu la cible des islamistes.
Nedim Gürsel a publié de nombreux romans, tous écrits en turc, car cet écrivain exilé, qui aujourd'hui peut toutefois circuler entre Paris et Istanbul, estime que la langue est sa seule patrie. Parmi ses ouvrages, un écrit de voyage intitulé « Ombre et traces » où dans son périple littéraire à travers de nombreuses villes, il fait une halte à Prague.
Donc j'écris aussi, et comme je l'ai dit tout à l'heure, des récits de voyage. Et dans un de mes récits de voyage, qui s'appelle « Ombre et traces », j'ai consacré tout un chapitre à la ville de Prague que j'ai découverte en 2001 et qui m'a fasciné. Alors, dans ce chapitre sur la ville de Prague, je suis un peu parti sur les traces de Kafka, bien sûr, qui est un auteur, un mythe maintenant littéraire, je dirais. Mais j'ai parlé aussi de Nezval, qui était lié d'amitié avec Nazım Hikmet, le grand poète turc auquel j'ai consacré ma thèse de doctorat. Nazım Hikmet a écrit de très beaux poèmes sur Prague, mais je parle aussi évidemment de Rudolf II et de son portrait fait par Archimboldo, et j'ai aussi parlé de cette étrange statue du janissaire que j'ai vue sur le pont Charles, et c'était une occasion pour moi de parler aussi de la peur des Turcs en Europe. Prague est une ville qui a un mythe littéraire, et j'ai essayé de le reprendre à ma manière pour en parler aux lecteurs turcs.
C'était l'écrivain Nedim Gürsel sur Radio Prague. Le 11 avril dernier, cela faisait 50 ans, jour pour jour, que s'éteint le procès Eichmann à Jérusalem en 1961. Quels furent les rapports de l'architecte de la solution finale de la question juive avec la Bohème? Pour répondre à cette question, David Talon a rencontré deux spécialistes, le journaliste Stanislav Motl, qui a abordé le sujet dans son livre « Les victimes et leurs assassins » publié en Tchèque en 2008, et Michal Frankl, qui dirige le département d'histoire de la Shoah au musée juif de Prague.
Chapitre de l'histoire.
Stanislav Motl, en 1998, vous avez rencontré Simon Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis. Quels souvenirs en gardez-vous?
J'ai rencontré Simon Wiesenthal deux fois et je peux dire que je le connais bien. C'était une personnalité très charismatique. Il avait une nature spéciale. Ce n'était pas un saint, mais quand il disait que justice n'est pas vengeance, il l'appliquait vraiment. Parfois, vous aviez l'impression qu'il parlait trop, parfois qu'il n'écoutait presque pas, mais personne, d'après moi, ne possédait une telle sensibilité. Il était aussi très systématique, ce qui l'a beaucoup aidé dans son travail. Peu de gens le savent, mais Simon Wiesenthal connaissait très bien la situation en République tchèque. Il avait étudié la technique allemande à Prague de 1928 à 1932 et il se rappelait très bien de ces années. Cette expérience l'a particulièrement aidé quand il a reçu des informations sur un certain Karel Lukács, dont nous reparlerons plus tard.
Když narazil na to jméno Karl Lukas, a ještě můžu říct jednu věc k tomu, že dneska samozřejmě spousta lidí, která ho spochybňuje.
Je dois encore ajouter une chose. Simon Wiesenthal nous a quittés en 2005 et aujourd'hui, il se trouve un certain nombre de personnes pour douter de son travail, en avançant par exemple son incapacité à retrouver Joseph Mengele, le médecin tortionnaire d'Auschwitz-Birkenau. Il avait un moment cru mort et une autre fois avait annoncé sa proche capture. C'est un fait qu'il ne pouvait pas vérifier matériellement toutes les informations qu'il recevait.
On dostal spoustu informace, nemohl si ověřit všechno, co je pravda. V roce 2001 tuším byl
En 2001, l'ancien commandant SS de la petite forteresse de Térézine était condamné à la prison à vie lors d'un procès à Munich. Or, on le doit à l'influence de Simon Wiesenthal, qui avait amassé de nombreuses informations sur lui. Mais l'information selon laquelle Wiesenthal avait retrouvé Eichmann relève de la légende, même s'il a joué un rôle certain dans les recherches qui conduisirent à la capture.
Dans votre livre « Les victimes et leurs assassins », on apprend que Eichmann se rendait régulièrement en Bohême dans les années 1930. Il y possédait en fait sa belle famille.
On to byl nadporučík jako československé armády, který se v roce 1931 přiženil do rodiny.
À la fin des années 20, Karel Lukáš, lieutenant de l'armée tchécoslovaque, fait la connaissance de Marie Liblova. Celle-ci vient d'une famille allemande du sud de la Bohème, dans la commune de Mladá, qui est aujourd'hui un quartier de České Budějovice. Il se marie en 1931. Or, la sœur de Marie, Veronika, se marie en 1935 avec Adolf Eichmann. Le beau-frère d'Eichmann était donc tchèque et qui plus est, lieutenant de l'armée tchécoslovaque. La police tchécoslovaque était au courant et surveillait chacun des faits et gestes d'Eichmann, car on supposait qu'il travaillait dans les intérêts du parti nazi, ce qui était vrai. Il y avait d'ailleurs eu des affaires avérées d'espionnage.
Což byla pravda. A on to měl skutečně se ukázal špionážní úkoly. Co je ale zvláštní u toho Lukáše Karla ještě, že vlastně celou dobu druhé světové...
Pendant toute la durée de la guerre, les deux couples vivaient dans la même villa, qui se trouve dans l'actuelle rue ou laboratoire à Prague. Karel Lukáš était donc parfaitement au courant des activités d'Eichmann.
Takže já tvrdím, že ten Karel Lukáš musel vidět takovou, co šlo. No a ta celá story, když Simon Wiesenthal přišel z koncentračního tábora, tak nabídl...
Quand Simon Wiesenthal revient des camps de concentration, il offre tout de suite ses services au comité américain de recherche des criminels de guerre. Sa première cible, Eichmann. Après la guerre, Eichmann s'était caché dans sa famille, à Linz, en Autriche, et le bureau que Simon Wiesenthal occupait alors se trouvait dans la même rue, à environ 200 mètres. Il ne le réalisera que plus tard. En 1947, il reçoit un document de la CIA, les services de renseignement américains, affirmant qu'Adolf Eichmann est mort. On suppose que ce document fut transmis par Karel Lukáš.
Après la guerre, Karel Lukáš a donc essayé de couvrir Eichmann et de décourager toute tentative d'enquête et de capture. Simon Wiesenthal l'avait pourtant excusé. Pour quelle raison ?
Simon Wiesenthal savait exactement qui était Karel Lukáš et ce qu'il faisait. Mais il l'a défendu, il a dit qu'il le comprenait et qu'il avait essayé de protéger sa famille. Mais il existe aussi d'autres variantes possibles. Il se peut en effet que ce ne soit ni Karel Lukáš ni sa femme qui ait transmis l'information de la mort d'Eichmann, mais Veronika, la femme d'Eichmann, ou même Eichmann en personne. Il est vrai qu'après-guerre, Karel Lukáš a été licencié de l'armée tchécoslovaque, mais il a pu continuer à travailler et il est mort en 1980 comme un homme tranquille.
Dans les années 60, et donc même après le procès Eichmann, Karel Lukáš vivait toujours dans la villa qu'il partageait avec le chef SS pendant la guerre. Or, cette maison avait été confisquée à une famille juive. Comment expliquer cela, Michal Frankl?
To je velmi komplikovaná otázka, která není uzavřena do dneška.
La question de la restitution des biens juifs confisqués pendant la guerre dans le protectorat de Bohême-Moravie est compliquée et n'a pas vraiment été résolue jusqu'à présent. Elle ne le sera d'ailleurs probablement jamais. En effet, la plupart des anciens propriétaires n'avaient pas pu se déclarer après-guerre car ils n'avaient pas survécu. Bien sûr, tous les pays occupés ont rencontré des problèmes pour la restitution des biens juifs car la Shoah a aussi représenté un immense pillage économique et social des communautés.
Do ekonomické sociální struktury té společnosti a nebyl to jediný zásah za války, taky třeba vzít v úvahu.
Ce ne fut d'ailleurs pas le seul pillage. Il suffit de penser aux conséquences des décrets Beneš en 1948 et à l'expulsion des communautés allemandes de Tchécoslovaquie. Les autorités ont empêché que les restitutions remontent à l'avant 1948. Bien sûr, l'arrivée des communistes en 1948, mais ces restitutions sous clé et celles qui sont en cours sont interrompues. Certains biens rendus avant 1948 ont d'ailleurs été à nouveau confisqués après.
Co se týče majetku židovských obcí, tak židovské obce část toho majetku dostaly zpátky.
En ce qui concerne les propriétés des communautés juives, le régime leur restitua les cimetières et les synagogues. Mais dans les localités où tous les juifs avaient été tués pendant la guerre, les autorités se sont retrouvées dans l'impossibilité de restituer ce patrimoine. D'ailleurs, sous la pression politique, ces biens ont souvent été revendus à des prix avantageux. C'est pour cette raison que la plupart des synagogues en Bohême-Moravie appartiennent aujourd'hui à l'église Hussite.
Na Moravě patří husitské církvi dneska.
Alors, on revient sur le procès Eichmann avec vous, Stanislav Motel. Y avait-il des juifs tchèques qui témoignèrent au cours du procès?
Tak byli tam čeští svědkové, to je pravda, ale tady je spíš pozoruhodná věc, že o tom Eichmannovi se málo...
Oui, il y avait des témoins tchèques au procès d'Eichmann, mais même en 1961, on savait encore peu de choses sur Eichmann, et c'était peut-être encore plus vrai dans les pays du bloc soviétique qu'ailleurs. J'ai retrouvé un document que je possède encore, c'est un texte qui date de 1946, et qui était arrivé de Nuremberg, où se tenait le célèbre procès contre les dirigeants nazis. On demandait aux autorités tchécoslovaques de délivrer toute information concernant Eichmann. Celles-ci répondirent qu'elles n'avaient aucune charge contre lui, et qu'il n'avait a priori commis aucun crime en Bohême-Moravie. Bien sûr, on savait qu'il avait organisé les déportations de juifs polonais. Pourtant, si l'on avait consulté les bonnes sources, on aurait pu savoir qu'Eichmann était au centre de la solution finale de la question juive dans l'ensemble de l'Europe. Lors de son procès, Eichmann se présente pour sa propre défense comme un simple exécutant qui n'aurait fait qu'obéir aux ordres. En vérité, c'était un antisémite convaincu et le véritable architecte du génocide. Dans son analyse sur la banalité du mal, Hannah Arendt s'est laissée tromper par ce subterfuge.
Suite de l'émission la semaine prochaine, avec le sort des Juifs tchèques pendant et après la guerre.
David Allon vous a présenté Chapitre de l'Histoire et c'est ainsi que s'achève le programme de Radio Prague en langue française, réalisation Elena Viernochova et David Rada. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie de votre attention.